Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, le 16e de notre 7e saison, première partie, avec invité aujourd'hui Jean-Jacques Lopez. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes Jean-Jacques Lopez, le maire de Sals, le château dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes également président d'une communauté de communes qui s'appelle Corbières-Salanques et qui a fait parler d'elle plusieurs fois dans l'actualité, et qui, à un moment d'ailleurs, a réussi peut-être quelque chose qui est une performance. On verra, on va y revenir, bien sûr, essentiellement dans une deuxième partie. Mais chacun le sait, en tout cas, ceux qui s'intéressent à la vie politique locale, pour être président d'une com-com, comme on dit familièrement, une communauté de communes, il faut d'abord être élu municipal. Donc vous êtes maire de Sals-le-Château. Alors le château, c'est une forteresse qui date alors de l'époque espagnole.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est Sals-le-Château, mais on est, c'est une forteresse qui est sur Sals, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de noble, il n'y a jamais eu de roi dans cette forteresse. C'était uniquement.
C'est défensif.
C'était militaire. Hein, c'était un édifice militaire. Alors pourquoi Sals-le-Château ? Eh bien, c'est un de mes prédécesseurs qui a voulu aider la viticulture donc à l'époque et a joué un peu sur le château. La forteresse, et donc a donné le nom de Sals, qui vient, Sals c'est de l'eau salée, hein, et donc Sals, le château, au lieu de Sals, la forteresse, parce que bon. Et donc ça permettait donc aux viticulteurs de faire, vous savez, des châteaux de Sals, comme vin et tout. Donc c'était promotionnel.
C'était du marketing, finalement.
C'était marketing, donc la forteresse a servi à ça.
Voilà, mais auparavant, elle avait quand même servi à bien d'autres choses, puisqu'elle a marqué pendant longtemps la frontière entre, alors d'abord le royaume d'Aragon, je crois, puis le royaume d'Espagne et le royaume de France.
Oui.
Et de l'autre côté, il y avait la ligne Maginot, le 4, et puis tous les châteaux que l'on dit cathares, en fait, qui n'ont jamais été cathares, mais la ligne de défense, Quiribus, Peyrepertus, etc.
Tout à fait, et donc par la communauté de communes, on arrive à une continuité entre ces châteaux cathares, qui se disent cathares, et notre forteresse française, qui normalement est une forteresse espagnole, et donc ça fait vraiment cette ligne Maginot. On est en continuité dans la communauté de communes, on est vraiment en continuité. Mais c'est vrai que la forteresse avait été construite pour défendre l'Espagne, dans le pays espagnol, contre la France. Et on retrouve donc une autre forteresse, parce qu'elle est située donc entre le pied des Corbières et l'étang, et donc un endroit stratégique. Et de l'autre côté, eh bien, les Français avaient fait une autre forteresse, le château de Sals, qui maintenant bon.
Le 4.
Pardon, excusez-moi. Le château de Le Cat, bon, qui a du mal à exister, puisque bon, maintenant il n'y a que des ruines.
Il reste plus grand chose.
Il reste plus
grand chose. Par contre, celui de Sals est debout.
Oui, celui de Sals est debout, bien que bon, Richelieu avait voulu le supprimer.
Comme les autres.
Comme les autres. Mais bon, après, ça a été Vauban qui a travaillé dessus, qui l'a consolidé. Et maintenant, l'État qui voulait à un moment s'en débarrasser, puisqu'il avait contacté un peu les communes, les départements, voire la région, l'État voulait s'en débarrasser. Puis bon, l'État ayant ce bébé, entre guillemets, sur les bras, a décidé de réhabiliter. Et maintenant, bon, c'est une forteresse réhabilitée qu'on a dans Sals,
voilà,
le château.
Mais qui appartient à l'État, qui est géré par l'État,
qui appartient à l'État et qui est géré complètement par l'État.
Et qui se visite,
puisque bon, maintenant, bon, c'est des entrées payantes avec des guides professionnels qui vous expliquent un peu tous les avantages, les inconvénients. Inconvénients, il n'y a pas beaucoup, mais sur les avantages de cette forteresse, notamment avec une forteresse où il y a de l'eau courante.
Ils ont capté une source
qui traverse dans la forteresse et qui se rejette juste à côté du stade de rugby de Sals. Et donc, il y avait l'eau courante à une époque où c'était étonnant.
Ah oui, effectivement, ça devait être un privilège d'une certaine façon. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un privilège pour vous, maire de Sals-le-Château, d'avoir ce château sur votre commune ?
Alors, un privilège, c'est toujours un privilège d'avoir un château ou une forteresse sur la commune. La problématique qu'on a, c'est une problématique, d'abord une problématique de village. Vous savez, avant, il était un peu laissé, il y avait un gardien, mais c'était ouvert aux 80, et donc les gens du village pouvaient y aller, visiter, les gosses s'amusaient à faire des batailles dans la forteresse, c'était assez amusant. Et puis, quand c'est revenu à l'État, quand l'État a commencé donc à faire des travaux, ben ils l'ont réhabilité et ils ont fait des entrées payantes. Ça fait que les salséens et salséennes trouvent quand même qu'on leur a un peu enlevé leur château.
Ils sont frustrés.
Ils sont un peu frustrés. Ça, c'est un des premiers problèmes. Et puis, deuxième problème qui est plus important pour nos communes, c'est qu'entre la forteresse et la commune, il y a la voie ferrée. Et là, la jonction entre les deux côtés, l'est et l'ouest de la commune, sont assez difficiles, ce qui fait que il y a des gens qui viennent pour voir la forteresse, mais qui ne rentrent pas dans le village, et ça pose quand même des problèmes économiques quand on voit une forteresse qui est visitée à 120 000 personnes et qui ne rentre pas, ne pas en profiter économiquement la commune, c'est un peu gênant.
Ah, voilà, oui, les problématiques. Donc vous avez un problème d'accès. Pour créer un circuit en quelque sorte.
On a un problème d'accès parce que bon, une voie ferrée, c'est pas comme une route. Hein, il est difficile de trouver des solutions. Alors là, avec la région, on est en train de lancer la région, le département et la communauté de communes. On lance les bourgs-centres et donc on essaie on aura des financements spéciaux donc par la région et le département. On essaie de trouver des solutions pour attirer un peu les personnes qui viennent sur la forteresse, les attirer dans le centre-ville. Bon, on a lancé une expérience. J'ai fait en tant que maire un centre culturel et avec l'ancien directeur de la forteresse, on avait commencé à partager des expositions. C'est-à-dire qu'une partie de l'exposition se retrouvait dans la forteresse et l'autre partie se trouvait dans le village.
Donc, incitant les visiteurs à y aller.
Bon, ça marchait un petit peu. Bon, peut-être il faut trouver des formules de ce type-là pour essayer de faire vivre vraiment la forteresse dans le cœur de Salse et des Salsais.
Et alors, sur l'économie essentielle de votre commune, Jean-Jacques Lopez, c'est quoi ? Alors, la viticulture, oui. Alors, la pêche, plus trop. L'étang de Salle, ça a plus beaucoup de pêcheurs, apparemment.
Non, c'est vrai que, bon, c'était vraiment l'économie du village, c'était, la viticulture, deux, la pêche. Et c'est vrai que, bon, la pêche sur l'étang, c'est-à-dire la petite pêche. Et c'est vrai qu'actuellement, on n'a plus que deux pêcheurs sur l'étang de Salse, à partir de Salse. On n'a que deux pêcheurs, et donc c'est essentiellement viticulture. Après, on est un village qui a grandi, on est actuellement à 3500 habitants, on vient de passer le cap de 3500 habitants, et comme depuis le début, je refuse l'installation de grandes surfaces, on a des commerçants qui se montent dans le village, et on a un village qui vit, qui est autonome, mais bon, où on trouve quand même dans le village tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre dans un village de 3500 habitants. Alors pourquoi bloquer les grandes surfaces ? Parce qu'on est à proximité, on est à 6-7 kilomètres de centre commercial de Cléra, et donc les gens qui veulent vraiment aller dans un centre commercial, eh bien, ils vont dans l'autre commune de Cléra. Et nous, on essaie de faire vivre Salse intramuros.
Voilà, donc la spécificité, comment on dit salséen, les gens de Salse ?
Salséen.
Les Salsains.
Salséens.
Salséens, voilà. Oui, mais. Et alors, quels sont les autres piliers économiques de votre commune ?
Alors, viticulture, alors. Là aussi, bon, vous savez que la viticulture, c'est ainsi, enfin, depuis quelque temps, a des problèmes. Donc, on essaie de diversifier. Il y a des gens qui, ça a été au début les amandes. Il y a eu des champs d'amandes qui se sont montés. Et maintenant, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ou le bonheur des uns faisant le malheur des autres, je ne sais pas dans quel sens on peut le dire.
Les deux.
Mais bon, il y a eu un problème de charcas sur Ille sur tête, et on a pas mal d'agriculteurs qui viennent pour mettre des pêchers sur notre commune. Donc on a
donc l'arboriculture, se développe.
L'arboriculture se développe sur l'ensemble de notre commune. Peut-être au détriment de la viticulture, mais bon, ça peut être complémentaire aussi.
Mmh. Je crois que vous avez des carrières ou une grande carrière.
On a aussi des carrières. On a d'une part des carrières, les carrières de la Salanque qui extrait des minéraux pour faire des sous-couches de route. Mais on a aussi une usine à Omia, qui traite. Alors les carrières ne sont pas sur Salles, ils sont plutôt sur Vengo et Totavel. Mais ces carrières où ils traitent le blanc là, c'est ce qui sert donc dans le cosmétique, dans pas mal de choses, dans les peintures, c'est ce qui donne la couleur blanche dans les peintures. Voilà, et donc on a l'usine sur Salses, voilà, on a donc un peu d'industrie sur Salses.
Oui, certaines installations. Et alors vous avez aussi sur Salses, ça peut surprendre, le mémorial de Rivesaltes.
Oui, ça c'est vraiment bon. Ça surprend parce que si vous voulez aller au mémorial de Rivesaltes, ne tapez pas ville de Rivesaltes parce que vous n'arriverez jamais au mémorial. Il est quasiment sur l'ensemble du territoire de Salses. D'ailleurs, c'est moi qui ai signé le permis de construire. Ça prouve bien qu'il est vraiment sur le territoire de Salses. Mais bon, c'était le Camp Joffre à l'époque qui avait été créé par l'ensemble des communes de Rivesaltes de Salses, c'était le camp Joffre et c'était aussi le camp de Rivesaltes. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait des déportés qui arrivaient dans ce camp et qui arrivaient par la gare de Rivesaltes. Et donc, c'est devenu le camp de Rivesaltes.
Voilà, et un camp qui a servi pendant des décennies.
Oh, c'est un camp qui a servi pendant des décennies. Il a été créé pour l'arrivée des Espagnols en 1936.
1939, voilà. Oui, à partir de la fin de la guerre civile.
Après, voilà. Après la guerre civile de 36, donc on a eu un afflux de population. Je sais que le département comprenait, bon, maintenant on est à 450 000 habitants, le département était à peu près de 200 000 et il y avait 200 000 Espagnols qui étaient à l'entrée des frontières. Donc ils ont été mis sur les plages, avec des camps, on le voit, à Argelès, à Banyuls, au Barcarès, et ensuite bon, eh bien, il s'est fait un camp sur ces terrains qui étaient des terrains militaires, et il s'est construit un camp pour justement recevoir un peu...
Et donc la commune de Salses a eu sa part d'histoire en quelque sorte sur ce chapitre-là. Jean-Jacques Lopez, on marque une première pause, on se retrouve pour une deuxième partie où on va évoquer votre présidence de la communauté de communes, alors Corbières-Salanques, c'est ainsi qu'elle s'appelle.
Corbières-Salanques Méditerranée.
Ne l'oublions pas.